ATSA tient à souligner que le projet Cuisine ton quartier a été enregistré sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que les terres sur lesquelles le projet est installé font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dene et de la patrie de la nation métisse.
Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine teu bairro.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabakhaye.
Cuisine quartier.
Cucina nel tuo quartiere.
Et matbakhna.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de ATSA quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles. Le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
Bintou Sacco, directrice de Accueil francophone, vraiment un organisme d'importance pour les nouveaux arrivants. Quand on arrive au Manitoba, Bintou, je crois qu'on va à Accueil francophone, n'est-ce pas?
Oui.
Qu'est-ce qu'on y fait? On arrive et qui nous accueille? Comment ça se passe?
Alors, je vais vous expliquer. L'accueil francophone a été créé en décembre 2003 par la Société de la francophonie manitobaine. Et de ce moment jusqu'à maintenant, l'accueil s'occupe de l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants. Alors, dans les nouveaux arrivants, on a plusieurs catégories. Justement, on a les réfugiés.
Oui.
On a les immigrants économiques, on a aussi les étudiants internationaux, les travailleurs temporaires et les demandeurs d'asile. Donc, quand ils arrivent, tous les services dont ils ont besoin, l'information, l'orientation par rapport aux démarches administratives, la recherche de logement, les différentes choses, l'inscription des enfants à l'école, l'accompagnement pour la recherche d'emploi, l'entrepreneuriat pour ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat, et aussi des activités communautaires, comment être connecté, et puis où être référencé pour des services dont ils ont besoin quand ils ont des soucis. Donc, on assure un accompagnement et puis on leur aide à trouver des ressources dont ils ont besoin dans la communauté ou à l'extérieur de la communauté parce qu'on couvre aussi une partie du rural. Donc, pour qu'ils puissent bien s'établir et qu'ils puissent commencer leur nouvelle vie.
Justement, hier, et dépendamment comment les gens vont écouter les balados, on parlait à une dame, Ruffine Juicy, qui va bientôt porter serment par rapport à être avocate pour les personnes francophones. J'imagine que c'est un service, entre autres, donnez-vous ça, des services, disons... de droit ou d'avocat, parce que des fois, c'est compliqué, hein, les papiers d'immigration.
Oui. Alors, nous n'offrons pas directement de services juridiques, mais nous travaillons avec l'Association des juristes du Manitoba, parce que un des forts de l'accueil francophone, c'est le partenariat et la collaboration. Donc, nous travaillons justement avec ces structures-là pour qu'ils puissent... aider aussi les nouveaux arrivants de façon plus concrète parce que nous ne pouvons pas tout faire à l'accueil francophone, bien évidemment. Donc, nous faisons le référencement ou l'aiguillage, comme on appelle de temps en temps, vers ces structures-là. Mais ce qui est important, c'est le suivi après. Alors, quand le client est référé et que le client reçoit les services, nous restons quand même, demeurons en contact avec le client. Et donc, on fait aussi le suivi avec ces structures-là pour s'assurer que ça a répondu aux besoins du client. Et si ce n'est pas le cas aussi, de leur trouver d'autres ressources qui peuvent mieux les appuyer.
Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler dans cet accueil francophone? Ben, vous qui venez du Mali en 94, c'est
oui.
Bien ça, donc ça fait vraiment longtemps.
Très longtemps.
Puis vous avez deux enfants ici, votre mari travaille au...
À la GRC.
GRC, voilà. Puis vous gardez malgré tout vraiment votre culture... En parlant Bambara à la maison, c'est
oui.
Ce que vous m'avez dit. Alors, oui. Parlez-moi de tout ça, comment vous êtes arrivé, qu'est-ce qui a motivé votre départ, teinté votre arrivée?
Bien, moi, à la base, je suis arrivée ici comme étudiante internationale. J'ai étudié à l'Université de Saint-Boniface. Mais en ce moment, j'avoue que la communauté était beaucoup plus homogène. Alors, on voyait très peu de nouveaux arrivants. On était peut-être 4 ou 5 Maliens ici, pas plus, à l'époque. On se connaissait tous. Et il y avait d'autres nationalités, on se côtoyait. Bon, les structures d'accueil, il n'y avait pas de structure d'accueil en tant que telle. On s'entraidait et il y a certains membres de la communauté qui étaient très engagés aussi, qui aidaient parce que on connaissait pas tout, bien évidemment. Donc, après avoir terminé mes études, je me suis d'abord engagée avec l'Université de Saint-Boniface pour faire le recrutement à l'international. Et donc, je couvre le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun et le Bénin. Donc, je participe au Salon de du Canada. Je fais la promotion pour l'université. Et donc, on a vu la communauté s'agrandir. Alors, en 2000, il y a une initiative qui a été lancée par Immigration Canada pour avoir des voyages de recrutement à l'international. Le Manitoba embarqué comme ça. Et donc, on a vu des familles venir du Maroc, du Maghreb d'abord. Et puis, on a vu aussi la nécessité d'ouvrir une structure. Moi, je n'étais pas impliquée à cette époque. Mais j'étais dans une autre association. J'étais plus active dans des associations que professionnellement. Donc, la structure a été mise sur pied en ce temps. Et puis, par la suite, j'ai trouvé que c'est quelque chose qu'on faisait de toutes les façons naturellement. Et puis, ça m'a intéressée. Et puis, je me suis engagée et j'ai commencé, moi, à l'accueil francophone en 2005. Donc, j'étais toute seule à l'époque. Et puis, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait bâtir. Il fallait bâtir quelque chose, il fallait développer des programmes, il fallait regarder ce qui répondait aux besoins des gens quand ils venaient ici, ce dont ils ont besoin. On peut pas tout faire, c'est sûr qu'il y a l'engagement aussi de la personne. Ça, c'est très important de souligner. La motivation et puis... Il y a beaucoup de résilience aussi chez ces personnes-là. Ça compte beaucoup dans les différentes étapes de l'intégration. Mais de notre côté, il fallait aussi faire beaucoup de sensibilisation pour créer cette ouverture et développer des programmes concrets qui pouvaient aider les nouveaux arrivants. Donc, moi, je me suis engagée d'abord comme coordonnatrice et puis j'ai développé la structure. Maintenant, on est très grand, on est une équipe de 37 personnes
wow.
qui travaillent justement pour appuyer les nouveaux arrivants.
Quels nouveaux programmes vous avez aidé à implanter, par exemple?
Par exemple, nous sommes la première structure francophone à travers le Canada à avoir signé une entente avec Immigration Canada pour aider les réfugiés. Alors, à la base, les réfugiés qui arrivaient au Canada... Les réfugiés conventionnels parrainés par le gouvernement étaient toujours accueillis dans des structures anglophones ou bilingues à travers le Canada. Donc l'accueil francophone s'est positionné en 2009 parce que nous sommes dans une stratégie de l'agrandissement de l'espace francophone à l'ouest. Et ça cadre bien avec les priorités de la communauté franco-manitobaine. Donc on a interpellé l'immigration pour dire que les réfugiés qui sont accueillis par des structures anglophones, par exemple, ça ne répond pas à la stratégie qu'on essaye d'implanter parce que par la suite, on les perd. Et notre intention, c'est de les garder dans la francophonie. Donc, on est allé négocier une entente et puis on a gagné. Alors, de 2009 à maintenant, on a bâti ce programme. Au lieu de que ça serve uniquement aux francophones, nous avons pu bâtir notre capacité. Maintenant, on est ouvert à tous les réfugiés. Alors, nous avons fait l'accueil des Syriens, nous avons fait l'accueil des Yazidis, nous avons fait l'accueil des Afghans, les Rohingyas, et maintenant, nous sommes en train de se préparer Ukrainiens. Pour les Ukrainiens. Mm-hmm. Et puis, on est le seul centre financé actuellement ici à Winnipeg par Immigration Canada pour s'occuper de l'accueil des réfugiés. Donc, ça, c'est une initiative à la base, à la création de l'accueil francophone qui n'existait pas. Qu'on a mis sur place.
Donc, quand un réfugié arrive et qu'il ne parle ni anglais ni français, si vous êtes sa porte d'entrée, qu'est-ce que vous faites en particulier pour qu'il intègre la communauté francophone et qu'il y reste, la rétention aussi? Parce que ça doit être difficile après, étant donné que la majorité de la vie se passe en anglais.
Exactement. Donc, ce que nous faisons et ce que nous avons de particulier, c'est que, bon, je vais dire que c'est pour tous les programmes qui touche les réfugiés d'une façon générale. Nous offrons l'accueil à l'aéroport. La position de la structure de l'accueil francophone est à notre avantage parce que nous sommes au cœur de la francophonie. Alors, le fait que nous soyons au cœur de la francophonie et que nos logements de transition sont aussi dans la francophonie ici, ça favorise. Et le fait aussi que nous accompagnons ces personnes à se trouver un logement, nous faisons en sorte que ça soit toujours à proximité d'une école francophone. Parce que la francophonie, on la vit, c'est sûr que quand on a des enfants dans des écoles francophones, ça motive les parents aussi à s'intéresser à ce qui se passe. Alors, l'engagement des parents envers la francophonie, ça peut se faire de différentes manières, soit en étant sur des comités, soit en siégeant sur des AGA, soit en participant aux activités en français. Donc, on fait en sorte qu'ils découvrent tout ce dont ils ont besoin en français, mm-hmm. pour qu'ils puissent continuer à utiliser mm-hmm. les ressources en français mm-hmm. et puis prendre la francophonie mm-hmm. à cœur. Et avoir aussi une compréhension de cette francophonie, parce que il faut pas oublier la particularité de la francophonie dans des provinces qui sont dans des situations minoritaires. On ne la vit pas d'une manière générale ou comme ça. Il faut l'intégrer. Il faut comprendre cette francophonie, comment elle est positionnée ici. Il faut comprendre son histoire. Il faut comprendre ses combats. Il faut comprendre aussi ses réalités. Mm-hmm. Bon, j'avoue que ces notions, ça, ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement connues ou pensées par les immigrants, parce que à la base, quand on dit Canada bilingue, ils arrivent ici avec leur français et ils ont été sélectionnés sur cette base, donc ils ont parfois l'intention d'arriver dans une communauté où peuvent vivre cette francophonie pleinement. Mais quand la réalité les frappe, ils comprennent pas. Pourquoi est-ce que? Parce que la francophonie est dans une situation très minoritaire et donc qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont protégées. Il y a leur passé, il y a leur histoire qu'il faut comprendre et ensuite il faut l'intégrer.
On arrive d'une précarité à une autre précarité. C'est pas simple.
Ce n'est pas simple du tout. En tout cas pour les réfugiés, ouais. C'est pas simple. Il y a beaucoup de changements. Il y a énormément de changements. Il y a plusieurs phases d'adaptation. Certains arrivent préparés. Bon, parmi les réfugiés, c'est pas tout le monde qui sort de la situation, d'une situation précaire. Il y a d'autres situations qui font que les gens vont quitter leur pays ou ils se trouvent dans certaines positions, mais qui ont la chance aussi d'être préparés ou de comprendre mm-hmm. un tout petit peu certaines réalités avant
d'arriver
ici.
D'avoir un peu de moyens, de pas nécessairement être parti en urgence.
Exactement, exactement. On a tous les niveaux.
Oui.
On va de zéro à 10, oui, si vous voulez. D'accord. On a des gens qui sont super éduqués, qui arrivent ici avec oui. des diplômes, l'expérience extraordinaire. Il y a d'autres qui arrivent avec zéro connaissance oui. du français.
Donc
la
vous
base.
Êtes apte à... Je ne savais pas que, franchement, vous ratissiez aussi large dans votre accueil. Je suis vraiment agréablement impressionnée. Vous, au moment où on se parle, en arrivant, Bintou, vous m'avez dit, là, je suis en décalage horaire, j'arrive du Mali. Donc, vous êtes allé visiter la famille.
Oui.
Et puis, c'est quoi comme choc, autant à l'aller qu'au retour? C'est tout frais, là, pour vous. Racontez-moi, là, vous êtes dans quoi, là, tout de suite, là?
Mais tout de suite, j'ai parlé du décalage, mais à part le décalage, ce n'est jamais facile d'aller visiter et de revenir. Moi, mon père n'est plus, ma mère est la seule qui est là maintenant, mais elle a pris de l'âge. Alors, moi, je vais souvent, mes vacances sont que pour elle. Quand je les prends, je vais au Mali, je vais la visiter et puis je fais ce que j'ai à faire et je reviens parce qu'elle peut plus faire le voyage. Avant, elle venait, mais là, elle peut plus venir. C'est moi qui dois faire le voyage. Donc, c'est toujours difficile, tout frais quand on arrive parce qu'on a l'impression d'avoir laissé quelque chose, une partie de nous derrière. Et puis, le temps de se replonger dans tout ce que nous faisons ici, ça peut prendre un peu de temps. Mm-hmm. Alors, c'est ça.
Est-ce que des fois, quand vous retournez, vous vous dites « Ah, j'aimerais retourner puis ramener toutes mes connaissances d'ici dans mon pays natal et recommencer à œuvrer là-bas. » Est-ce que c'est déchirant, cet aspect-là?
Ben, j'avoue quand même que on y pense. On y pense constamment. On y pense constamment parce que moi, je dis, dans mon cas, moi, peut-être c'est le cas aussi pour tout le monde, j'ai commencé une première étape de ma vie en Afrique où il y a mes racines, mes valeurs ont commencé à être intégrées là. Alors, jusqu'à l'âge de 17-18 ans, ça c'est la base de l'éducation. Alors, quand on arrive ici, c'est l'école de la vie. On commence nos formations académiques sérieusement, l'université, et toute cette expérience professionnelle et cette expérience de vie. Alors, ma vie, c'est comme si c'était en deux étapes. J'ai tous les gens que j'ai vus quand je suis venue au monde, tous les gens que j'ai vus, que j'ai aimés, que j'adore, qui sont restés là-bas. Et je suis venue ici, je me suis aussi développée des amitiés. J'ai trouvé une famille ici, si vous voulez. Alors, on est toujours entre deux mondes et on est toujours en train de chercher la balance ou l'équilibre entre où on va ou ce qu'on fait. Alors, quand on est là-bas, ici, ça nous manque. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent ici, qui fait qu'on veut rapidement revenir pour retrouver. Et notamment ma famille, mon mari est là avec mes deux enfants. Ce sont des Canadiens, canado-maliens. J'essaye de leur apprendre ça, parce qu'on se détache jamais de sa culture. On a toujours quelque chose qui reste.
C'est pour ça que tantôt, tu disais, ben, à la maison, on parle quoi, d'ailleurs?
Bambara, on parle Bambara. On parle français, on parle anglais, ils l'ont appris. C'est pas nous qui leur avons appris l'anglais, ils l'ont appris ici, les enfants.
Comme on dit, ça s'attrape vite. Hein?
Exactement. Mais on leur parle en français, leur père leur parle en français, et moi, j'ai la charge de leur parler en Bambara. Alors, je leur parle en Bambara. Ma plus petite, elle parle un peu. Mon grand garçon, il comprend très bien, mais il parle pas beaucoup. Ah, mais il comprend quand même. Donc, on fait en sorte que, au moins, qu'il soit pas perdu quand on retourne au Mali, qu'il puisse communiquer avec d'autres personnes que papa et maman seulement. Il y a des cousins, on a des familles qui sont dans des zones un peu éloignées. Tout le monde n'est pas dans la capitale. Alors, on fait en sorte qu'ils puissent au moins être en contact avec ces gens-là qui comprennent certaines réalités.
Vous êtes allée avec les enfants au Mali déjà?
Je suis allée, chaque fois que je pars avec un de mes enfants. Okay. Ou mon garçon ou ma fille. Okay. Cette fois-ci, j'étais avec ma fille. Elle a eu ses 7 ans là-bas, alors elle était très contente. Donc, j'essaye de créer un lien ou une connexion, parce que ça, c'est très important. C'est très important
comprendre
pour
moi. Comprendre ses racines. Oui, c'est, je pense que c'est très important pour l'identité profonde, là.
Tout à fait.
De sentir d'où on vient, etc. Quoi d'autre que vous faites ici pour conserver votre culture malienne?
J'ai ma sœur ici. Ma grande sœur est ici avec moi. Mon grand frère aussi est ici avec moi. La notion de la famille est très importante pour moi parce que je vis ces choses-là à travers ma culture. On est très proches. Il y a certaines choses qu'on voit ici où les gens sont éloignés, même quand ils sont de la même famille. C'est très important pour moi que la famille soit soudée. C'est une valeur que j'ai inculquée à mes enfants. Mon fils, il est très proche de ses cousins, les enfants de ma sœur, les enfants de moi. C'est comme la même famille. Alors, il s'appelle frère, par exemple. Ça, c'est culturel. Il s'appelle pas cousin. Cousin, c'est très précis ici. Ils sont frères et sœurs. Alors, je vis ça. On a aussi l'association des Maliens. On organise des fêtes culturelles.
On se réunit. Est-ce que Malien, c'est Malien, mais est-ce que vous ouvrez ça à des communautés africaines plus en général, où les Maliens sont avec les Maliens, les Ivoiriens avec les Ivoiriens, les Sénégalais avec les Sénégalais?
Il y a plusieurs associations ethnoculturelles ici. Je pense que les réalités diffèrent d'un pays à un autre et puis les enjeux ne sont pas pareils. Il faut comprendre ça. Les associations ne sont jamais complètement fermées parce que chez nous, c'est très difficile de fermer l'association des Maliens, par exemple, à une Ivoirienne qui a deux nationalités. On peut trouver quelqu'un qui arrive ici avec la nationalité ivoirienne, mais qui a aussi la nationalité malienne. En ce moment, la personne se retrouve dans les deux associations. Ou sénégalais, ou c'est très difficile.
C'est pas juste une affaire culturelle, là, les associations, c'est une affaire aussi juridique, si je comprends bien, citoyenneté.
Oui.
Parce qu'il y a des entraides ou des spécificités avec les ambassades et les choses
oui,
comme
oui,
ça. Là,
oui, tout à fait. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres dans les démarches, par exemple, quand on prend l'association des Sénégalais, ils ont consul ici qui peut faire bouger les choses facilement au niveau de l'ambassade du Sénégal à Ottawa, contrairement aux Maliens. Je pense que ça dépend aussi du nombre de ressortissants, le fait d'avoir un consul ici ou d'avoir certains services consulaires.
Je comprends mieux pourquoi c'est plus en silo, là. C'est vraiment des choses territoriales.
Oui, c'est très spécifique. Oh, oui.
Mais est-ce que vous trouvez qu'au niveau de nouveaux arrivants, que ça se mélange beaucoup, toutes cultures confondues, grâce à Accueil francophone ou à d'autres organisations?
Ça se mélange, mais en même temps, il y a cet aspect aussi. C'est pas exclu complètement. À la base, à l'Accueil francophone, nous essayons quand même de garder cet esprit d'impartialité ou de traitement équitable envers toutes les personnes que nous recevons, peu importe leur pays de provenance, pour qu'ils comprennent que on est dans une situation multiculturelle ici.
Est-ce qu'un Québécois, donc qui vient pas du Manitoba, pourrait se retrouver à arriver à Accueil francophone pour développer son réseau francophone ici au Manitoba?
Malheureusement, les subventions, il y a des restrictions. Il y a des restrictions aussi sur les subventions que nous recevons de IRCC. Les subventions de IRCC nous disent quel type de clientèle. Okay. Alors, nous n'excluons pas les gens parce qu'on a eu à servir des Québécois qui sont arrivés, qui ne savaient pas où aller et qui avaient besoin de services. C'est peut-être un seul service, c'est le service de logement seulement, ou c'est tout simplement pour savoir où aller pour X ou Y service. On va les aider, on va pas les renvoyer, on va pas leur fermer la porte, même si on sait que ils ne sont pas éligibles au service de l'accueil francophone à cause...
Ils sont canadiens déjà,
ouais. Exactement. Mais on ne ferme jamais la porte à quelqu'un quand on se présente aux portes de l'accueil francophone pour demander le service en français. On fait en sorte qu'on puisse leur donner le minimum.
Qu'est-ce que vous auriez le goût de leur demander à la communauté anglophone?
Ben, je pense que ça va au-delà de la communauté anglophone, mais je pense que la francophonie en situation minoritaire, la façon dont le fait français est traité, on doit regarder ça pour ramener le français au même niveau que l'anglais. Et pourquoi je dis? Parce que je trouve toujours que ce n'est pas équitable entre les deux langues, surtout quand on est en situation minoritaire. Ça fait que les communautés anglophones sont dotées de beaucoup plus de ressources et ont toujours tendance à minimiser un tout petit peu ce qui se passe dans la francophonie, qui, à mon avis, ne doit pas se faire parce que on a toujours l'impression de forcer la porte. Et on ne devrait pas forcer la porte, les portes devraient rester ouvertes tout le temps. Et ce qu'on impose parfois aux francophones dans les situations minoritaires, c'est d'être toujours bilingue. Mais la même chose n'est pas imposée aux anglophones. Alors, nous avons une majorité anglophone qui travaille dans toutes les structures importantes. Et parfois, c'est très très difficile de se faire même servir en français dans certaines situations ou de tenir compte du fait que ben il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas fonctionner en anglais et qui auront besoin de services en français. Donc on a toujours l'impression de forcer les choses pour avoir une position.
Puis vous sentez que plutôt que d'avoir une posture « Ah, je vais vous aider », puis bien sûr c'est naturel, qu'on fait sentir à la personne que c'est à elle à faire l'effort et puis qu'elle reviendra quand elle parlera anglais, quoi.
Parfois. Et moi, je suis toujours en train de demander ce qui peut être embêtant des fois. Par exemple, quand j'étais en train de faire mon bac en travail social à l'Université de Saint-Boniface, je vais recevoir mon diplôme à l'Université du Manitoba parce que j'ai terminé mes cours à l'Université du Manitoba en anglais. Donc, à la remise des diplômes, on m'a demandé « Est-ce que vous voulez que la personne qui présente votre diplôme en anglais ou en français ?» J'ai dit « Est-ce que j'ai le choix ?» Ils ont dit « Oui ». J'ai dit « Je veux que ça soit présenté en français ». Écoutez très bien, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a 500 étudiants qui doivent graduer et vous allez passer en dernier? Je dis, j'attendrai. Mais je voudrais que mon diplôme soit présenté en français. Alors, je n'étais pas la seule de l'Université de Saint-Boniface il y avait plein d'autres étudiants de l'Université de Saint-Maurice qui auraient pu demander. On aurait peut-être pu être une centaine ou une cinquantaine à recevoir le diplôme en français, mais tout le monde a reçu son diplôme en anglais. Mm-hmm. Moi, j'ai attendu tranquillement.
Juste se faire poser cette question-là, on sent que ça dérange, plutôt que ce soit juste naturel.
Ça ne devrait pas.
Oui, je
comprends. Ça ne devrait pas.
Ben oui, c'est ça. Alors, c'est un peu une manière de dire, ben là, vous en demandez beaucoup, hein?
Ben, et pourtant, je sors d'une université francophone, mm-hmm. ça mm-hmm. devrait normalement être naturel, ben, comme on dit. Mm-hmm. Alors, ce sont des petits gestes, des fois, qui sont significatifs. Et puis, qui peuvent aussi...
Intimidant,
Hein,
je dirais, un peu intimidant.
Intimidant, mais qui aide aussi à faire un tout petit peu de réveil de conscience pour mm-hmm. dire aux gens, il faut tenir compte de ces choses-là, c'est important pour certaines personnes.
Oui, ça prend un peu de front tout le tour de la tête pour se dire, non, moi, je vais vivre en français. Et puis, je pense que pour plusieurs, on aime bien aussi avoir, je dirais... un but, une mission, quelque chose qui éclaire nos vies. Puis si, quelque part, le français peut aussi être quelque chose qui nous anime comme francophones, c'est bien de le réveiller constamment puis de développer une fierté de tout ça, de continuer cette bataille-là. Parce que en fait, est-ce qu'on compte beaucoup sur les nouveaux arrivants? Trouvez-vous qu'on vous en met beaucoup sur les épaules par rapport à toutes les batailles du passé, de la francophonie, les batailles pour garder les écoles, etc.? Est-ce que vous sentez que maintenant, on vous donne le flambeau, finalement?
Bien, on n'a pas le flambeau totalement, parce que j'ai parlé de beaucoup de priorités quand même que les communautés ont développées. L'immigration en est une, mais ce n'est pas la seule priorité des communautés, justement pour pallier à cette question démographique qui est à la baisse pour le nombre de francophones dans les communautés comme chez nous ici. Donc, l'immigration est une priorité et les gens qui travaillent dans ce domaine ont leur part à faire parce que c'est inscrit aussi dans une stratégie qui ne vient pas seulement des communautés, mais qui est conforme à toutes les stratégies depuis le gouvernement fédéral jusqu'à ce qui se fait dans la communauté aussi. Donc, on a un rôle à jouer. On n'est pas exclu, mais on n'a pas le rôle essentiel où tout ne repose pas que sur l'immigration. Mais les études, c'est sûr qu'il y a certaines études qui vont aller jusqu'à dire que la survie de la francophonie au Canada dans peut-être 50 ans, ça va dépendre de l'immigration, ça se dit. Et on sait aussi qu'il y a un bassin très important de francophones à l'extérieur du Canada qui n'est pas nécessairement en Europe, qui se trouve aussi en Afrique. Alors, c'est vraiment d'élargir le champ. On est en train d'en parler maintenant, d'élargir le champ de recrutement, le champ de promotion de l'immigration francophone qui se fait à l'extérieur, à l'international, pour aller toucher plus de francophones à travers le monde qui veulent venir au Canada s'établir ici.
C'est quoi les communautés francophones à l'extérieur de Winnipeg? Juste me nommer des noms, des villages, des régions.
Il y a la Brocquerie, il y a Île-des-Chênes, il y a Saint-Pierre-Joly, il y a Sainte-Anne, il y a Notre-Dame-de-Lourdes, il y a Saint-Georges, il y en a beaucoup.
Tous ces noms sont si jolis. J'ai vraiment envie d'y aller. J'adore ça. Vous, êtes-vous allé?
Oui.
Ouais.
Mon fils, il va à l'école à Île-des-Chênes, au rural. Nous avons habité à Niverville, qui est entre Saint-Pierre-Joly et Île-des-Chênes. Moi, j'ai habité dans cette zone. Mon mari a travaillé à Saint-Pierre-Joly. Alors, j'aime bien Saint-Pierre-Joly. J'aime bien Sainte-Anne aussi. J'adore Sainte-Anne. On a un très beau projet à Sainte-Anne qui s'appelle Communauté francophone accueillante, qui est une initiative lancée par le Immigration Canada, qui a été accueillie à bras ouverts par cette communauté pour justement aider les immigrants qui veulent s'installer au rural à bien s'installer.
Quand on va là-bas, là, si on vit là-bas, est-ce qu'on peut vivre en français total?
C'est très difficile de vivre en français total au Manitoba.
Okay.
Il y a toujours des anglophones autour.
Okay.
Il y a un fait aussi, il y a beaucoup de familles exogames. Alors, ça veut dire qu'un des parents est francophone, l'autre parent est anglophone. C'est une réalité, on peut pas exclure.
Non, non.
Alors, on a des enfants comme ça qui fréquentent aussi des écoles francophones,
oui,
qui sont amis avec nos enfants. Ils vont vivre une partie de leur vie en français et ils vont vivre une partie de leur vie en anglais.
C'est ça.
Correct,
donc,
ça.
Donc, des communautés amoureuses du français, on va dire.
Exactement.
Voilà. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que vous écoutez en français ici comme musique, vous diriez?
J'écoute en fait des musiques de partout. des chansons françaises, des chansons, j'écoute toutes sortes de chansons. J'aime bien un chanteur franco-manitobain, j'aime bien Daniel Lavoie.
Oui.
J'aime écouter Daniel Lavoie, j'aime sa voix, j'aime ses chansons et tout.
M'envolerai sans regret pour ma vie vagabond, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route.
J'écoute beaucoup de chansons de chez nous, de l'Afrique d'une manière générale. J'écoute beaucoup Salif Keita.
Oui.
Il chante très bien, il a une belle voix. Il y a aussi des artistes qui sont décédés. J'aime beaucoup Kassemadi. Ça me renvoie très loin. J'aime aussi quelques griottes, des anciennes griottes. Il y en a qui sont décédées. J'aime bien écouter ça parce que ça me renvoie à mon enfance. Et c'est des chansons qu'écoutait ma maman beaucoup. Alors, j'écoute ça. C'est ça.
Merci beaucoup, Bintou. Je vous souhaite longue vie dans vos communautés francophones manitobaines.
Merci beaucoup.
Et merci pour votre travail d'entraide.
Merci. C'est un plaisir pour moi. J'ai retrouvé quelque chose dans la communauté franco-manitobaine qui a donné un sens à mon parcours. Voilà. Parce que à la base, je suis une personne qui aime beaucoup aider. En arrivant ici, je pense que ce que je cherchais à faire, ce que j'ai fini par faire par la suite, était la voie que je voulais suivre parce que l'entraide fait partie de moi. Je me suis orientée en travail social pour justement être dans ce domaine-là, en service social, pour être proche des gens et pour continuer à aider. Même s'il n'y a pas de rémunération qui est attachée, j'aime aider et je pense que c'est ce que je vais continuer à faire. Je l'ai trouvé ici. Et ça fait que j'ai développé des très, très bonnes relations avec des personnes extraordinaires qui fait que je suis bien.
Je pense que toute la communauté manitobaine vous trouve précieuse et extraordinaire. Merci.
Merci beaucoup.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.